Chapitre 44. Pendant que Nathan fouillait dans les archives, Nietzsche préféra partir à la pêche aux informations de première main sur le buveur de vie. Étant elle aussi une érudite, entre autres choses, elle entendait étudier la balafre à sa façon. Bannon ne tenait pas en place. Faisant les 100 pas dans les couloirs de la bibliothèque géante, il s'entraînait tout seul à l'épée, affligé que son mentor soit trop occupé pour lui consacrer du temps. Avec ses estoques, ses coups de taille et ses parades, il affrontait son ombre, réussissait à la vaincre la plupart du temps et terrorisait de paisibles érudits. Quand Nietzsche lui proposa une expédition dans la balafre, il sauta sur l'occasion. « Je t'accompagne, magicienne !» dit-il en levant son épée. « Solide et moi, nous te protégerons !» Suivant Nietzsche comme son ombre, Chardon ricana devant les prétentions du jeune homme. « C'est moi, sa garde du corps !» « Bannon Farmer, » dit Nietzsche, « je n'ai pas besoin de protection, mais tu es le bienvenu. Il y aura peut-être des hommes poussières à combattre, mais toi, Chardon, tu vas rester ici, en sécurité. »« Je me fiche d'être en sécurité. De toute façon, avec toi, je ne risque rien. » Nietzsche ne céda pas. « Bannon et moi, nous partons pour un ou deux jours. Toi, tu nous attendras ici. » Bien que déçu, Chardon n'insista pas. Au contraire, elle fit la voir Nathan au cas où il aurait besoin d'aide. Vêtu de sa robe noire remise en très bon état, Nietzsche accepta les paquetages proposés par des serviteurs puis se mit en route. Simon rejoignit les deux explorateurs du côté de la mesa qui donnait sur la balafre. « Soyez prudent en descendant, » dit-il. « Je dois vous prévenir que nous n'avons plus revu tous ceux qui sont partis traquer le buveur de vie. »« Nous n'avons pas l'intention de l'affronter tout de suite, » précisa Nietzsche. Mais d'explorer pour évaluer ses défenses. Quand je reviendrai avec de précieuses informations, j'aiderai Nathan à trouver ce qu'il nous faut dans les archives. » Bannon et Nietzsche durent négocier un chemin abrupt et sinueux, où un faux pas aurait pu signifier la mort au terme d'une chute vertigineuse. En bas, ils traversèrent une bande de terre, où la végétation n'était pas encore morte, mais déjà en piteux état, et où la faune se réduisait à quelques gros insectes rampants et à des araignées dont les toiles ne piégeaient plus rien. Plus ils avancèrent et plus le terrain devint sec et craquelé. En 20 ans, une zone prospère sillonnée par des routes et des cours d'eau était devenue un désert aride. D'en haut, Nietzsche avait pu se faire une idée de la topographie et elle informa Bannon de ses déductions. « Tu vois ce cratère droit devant nous? Le buveur de vie s'y cache sûrement. » Pour l'instant, nous allons simplement approcher et collecter des informations. Le combat final, ce sera pour plus tard, quand nous saurons comment le tuer. » Bannon plissa les yeux, sonda leur destination et acquiesça. Alors qu'elle repartait, Nietzsche entendit un bruit étrange derrière elle. Un craquement de branches mortes, peut-être. Elle se retourna, prête à se battre, et Bannon l'imita. Sortant de derrière un arbrisseau rachitique, Chardon sourit de toutes ses dents. « J'étais sûre de vous rattraper, » dit-elle fièrement. « Je suis là pour vous aider. »« Je t'avais dit de ne pas venir, » rappela Nietzsche. « Tous les gens parlent à tort et à travers, et moi je fais ce que je veux. » La magicienne plaqua les mains sur les hanches. « Tu ne devrais pas être là. Retourne d'où tu viens. »« Non, je vous accompagne. » »« Pas question. » Chardon ne désarma pas. « Je suis né ici, et je connais très bien le terrain. » « Qui vous a guidé jusqu'à surplomb du monde? Sans moi, vous n'y seriez jamais arrivé. Je peux prendre soin de moi et en prime veiller sur vous deux. » La gamine imita la posture de Nietzsche, main sur les hanches. « Si je décide de continuer à vous suivre, tu crois pouvoir m'en empêcher ?»« Oui, grosse maligne, avec ma magie. Tu ne l'utiliserais jamais contre moi. » Devant tant de confiance, Nietzsche ne put s'empêcher de sourire. « Non, probablement pas. Et je sais à quel point tu peux m'être utile ici. Bien plus que Bannon, sans doute. » Le jeune homme enrosit d'indignation. Moi, j'ai prouvé ma valeur dans des batailles épiques. Aux sources de Verdun, j'ai tué beaucoup d'hommes poussières, et je ne mentionne même pas les Selka. Tu pourrais devoir recommencer bientôt, concéda Nietzsche, désireuse d'abréger cette conversation. Très bien, on y va tous les trois. Mais ouvrez les yeux et le bon. Nous ne savons pas quelle autre défense peut avoir le buveur de vie. Les trois compagnons s'engagèrent dans le réseau de canyons qui conduisait au cœur de la balafre. Dans les colonnes de poussière soulevées par le vent, Bannon toussa comme un perdu et les yeux de Nietzsche brûlèrent. Prévoyante, la magicienne décida de rationner l'eau car ils n'en trouveraient sûrement pas dans cette désolation. Plus ils avancèrent et plus la dévastation devint impressionnante. Dans les lits des cours d'eau, des rochers secs depuis des années se dressaient vers le ciel. Des lacs, il ne restait plus que de vastes étendues de boue sèche et craquelée. Dans cet environnement hostile, Nietzsche, Chardon et Bannon parlèrent très peu et marquèrent de rares pauses. Quand ils buvaient, le sel déposé sur leurs lèvres donnait à l'eau un goût répugnant. Des crevasses dans le sol montaient des relents de soufre qui prenaient les trois compagnons à la gorge. Dans des trous, un magma indéfinissable bouillonnait, exhalant une horrible odeur d'œuf pourri. Sautant de rocher en rocher, Chardon ouvrait la voie à ses amis. À travers l'air surchauffé où voltait de la poussière, le soleil semblait gonflé comme s'il était malade. À l'idée de camper dans la balafre, Nietzsche n'éprouva aucun enthousiasme. « Depuis des heures, » dit Bannon, « nous n'avons même plus vu un arbre mort. »« On peut s'abriter entre des rochers, » fit Nietzsche, « ou continuer à marcher. Avec une flamme de paume, on devrait y voir assez bien. » Chardon parut mal à l'aise. « La nuit, » dit-elle, « de dangereuses créatures rôdent. » Bannon regarda autour de lui. Les émanations des crevasses et des puits de boue l'empêchant de bien voir, il tendit l'oreille et ne capta rien. « Les risques d'attaque sont aussi élevés le jour, » dit Nietzsche. Alors qu'ils essayaient de prendre une décision, la terre craquelée ondula à leurs pieds. Vive comme l'éclair, Nietzsche poussa Chardon en sécurité et s'écarta au moment où des mains squelettiques émergeaient du sol. Un peu partout, des crevasses se formèrent, puis des hommes poussières jaillirent à l'air libre. Bannon dégaina son épée et chargea. Nietzsche invoqua sa magie sans s'affoler. Pour avoir déjà combattu ces monstres, elle savait que faire. Frappant avec précision, elle embrasa le spectre le plus proche avant qu'il soit complètement sorti de son trou. Après avoir sauté sur un rocher plat pour avoir une base solide, Bannon, d'un seul coup d'épée, décapita trois revenants vêtus de haillons. Même ainsi, ils continuèrent à avancer, mains tendues vers leur proie. Avec son agilité coutumière, Chardon échappa à ses brutes et Bannon s'empressa de les tailler en pièces. Nietzsche invoqua un marteau d'air et écrabouilla un autre homme poussière pas encore sorti entièrement de terre. Puis, avec un point d'air, elle fit tomber dans un puits de boue un trio de monstres qui sombra instantanément. Chardon sauta sur le dos d'une créature qui tentait de prendre Nietzsche à revers. Avec son couteau, elle larda de coups le torse du spectre qui finit par tomber à genoux tout le haut du corps dévasté. Alors que Nietzsche se tournait vers elle pour la remercier, deux nouveaux hommes poussières bondirent sur la fillette. Une femme momifiée qui portait sur la tête un fichu jadis rouge et un homme vêtu de ce qui restait d'un gilet de cuir. Chardon se pétrifia quand elle reconnut ses agresseurs. En titubant, ils approchèrent les mains tendues.
« Tante Luna ? Oncle Marcus ?»
Nietzsche vint se placer entre la petite fille et ses anciens tuteurs.
« Vous ne l'aurez pas !»
cria-t-elle. Des mains décharnées s'accrochèrent à ses bras, menaçant de déchirer sa robe noire. Folle de rage, elle embrasa les dépouilles ambulantes de Marcus et de Luna. Des flammes blanches les carbonisèrent en un clin d'œil. Alors qu'il s'écroulait, transformé en cendres avant même d'avoir touché le sol, Chardon cria de désespoir. Dos à dos, le souffle court, les trois compagnons attendirent d'autres adversaires qui ne vinrent jamais. Pour l'instant, le buveur de vie les laissait en paix. Une bataille brève et violente. Dans le lointain, des bruits retentirent. Rien à voir avec les hommes poussières. On eût plutôt dit des sons de pierres dérangées et des cliquetis d'armure, d'autres créatures tapies dans les ombres. Chardon se serra contre la jambe de Nietzsche.
« Le buveur de vie sait où nous sommes et il nous espionne. »«
Magicienne, » demanda Bannon, « tu es sûr que nous devons continuer ?»
Malgré ses efforts, le jeune homme ne pouvait pas empêcher sa voix de trembler.
« Nous sacrifier serait absurde, » répondit Nietzsche. « Pour le moment, nous en avons assez vu. On rentre. »
Très tard dans la nuit, les trois compagnons furent enfin revenus sur la bande de terre où la végétation résistait encore. Presque rassurés par la vue des arbres ratatinés et des arbustes desséchés, Ils trouvèrent assez rapidement un endroit où camper.
« Au moins, il y a assez de bois pour faire un feu, » dit Bannon. « Une belle flambée même !»
Encore traumatisé d'avoir revu son oncle et sa tante, Chardon alla pourtant chercher une brassée de branches mortes d'acacia.
« Ce sera une belle flambée, » confirma-t-elle.
« Mais n'est-ce pas dangereux? Le buveur de vie pourrait nous repérer ?»
Nietzsche utilisa son pouvoir pour embraser le tas de bois.
« Il sait très bien où nous sommes, » dit-elle. « Avec ce feu, au moins, nous verrons venir ces monstres de loin. »
Transi, Bannon et Chardon s'approchèrent des flammes.
« Vous dormez, je monte la garde, » dit Nietzsche.
Ses deux compagnons obéirent, pour une fois, mais ils dormirent d'un sommeil agité. Tendant l'oreille, Nietzsche ne relâcha pas un instant sa vigilance. Dans une obscurité qui semblait absorber aussi bien la vie que les sons, la magicienne ne capta aucun bruit suspect. Pourtant, elle sentit des présences tout autour du camp. Des prédateurs rôdaient et ils n'avaient rien de naturel. Même si elle ne les voyait et ne les entendait pas, des monstres étaient en chasse. Et le gibier, c'était ses compagnons et elle.